Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une donc, cette nouvelle alerte dans nos assiettes après les pizzas Buitoni. Ferrero rappelle plusieurs de ses produits Kinder. Dans ce journal également, ces nouvelles sanctions contre la Russie, puis la flambée des prix des carburants qui pourrait bien chambouler les vacances des Français.
Après donc le scandale Buitoni, cette histoire de salmonelle dans les chocolats, faut-il s'inquiéter? Notre alimentation est-elle plus sûre? Et puis une proposition, un jour, à 5 jours du premier tour de la présidentielle, nous serons sur la question du grand âge. C'est l'une des questions des programmes.
La question du jour sur RTL.fr, elle concerne aussi la présidentielle. Avez-vous reçu les professions de foi des candidats? Vous les avez reçues, Pascal?
Mais je ne crois pas.
Bon, moi non plus. Et c'est le cas de 71% des personnes qui ont répondu à notre question. Vous dites oui à 27%. La météo, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour, Peggy.
Bonjour, Amandine.
C'est bien, bien gris.
Ah oui, ça concerne les deux tiers nord du pays avec la perturbation. Alors, très peu active, donc elle donne très peu de pluie. Des Charentes au nord-est. Et puis, le soleil domine toujours du Sud-Aquitaine aux Alpes, aux régions méditerranéennes. Le tout sous des températures en hausse, on se rapproche des normales de saison, globalement comprises entre 10 et 15 degrés et jusqu'à 18 près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc ce gros coup dur pour Ferrero. À 10 jours de Pâques, le géant du chocolat retire des rayons plusieurs tonnes de Kinder. Décision radicale après la découverte de plusieurs cas de salmonelle, 21 cas pour l'instant en France, Virginie Garin.
Oui, 15 enfants au moins avaient mangé des chocolats Kinder. Pour les autres, l'enquête est en cours. 8 ont été hospitalisés mais sont sortis depuis. Ils vont bien. Alors la salmonellose provient d'une bactérie qui peut être transmise par le lait. Les symptômes sont ceux d'une gastro. On en guérit en général en quelques jours, mais il peut y avoir des cas graves, notamment chez les enfants. La bactérie identifiée en France est la même que celle retrouvée en Grande-Bretagne sur des malades qui ont aussi mangé du chocolat provenant de l'usine belge de Ferrero qui fabrique les Kinder, d'où cette décision spectaculaire du groupe de retirer aujourd'hui pratiquement tous les produits des rayons qui seront remplacés dès demain par d'autres chocolats sains provenant de l'eau testée, assure Ferrero.
Alors Virginie, ça concerne quel chocolat et que doit-on faire si on en a mangé par exemple?
Alors ça concerne la totalité des œufs Kinder, donc les classiques de 20 grammes et les maxi de 100 grammes, ainsi que les chocobons, les mini-eggs, les happy moments, les Kinder Mix. On peut les identifier par leur date de péremption. Pour les connaître, Ferrero a mis en place un numéro, le 0800 653 653. Il faut insister, il était saturé ce matin. Si vous en avez, ne les mangez pas, et si c'est déjà fait, s'il n'y a pas eu de symptômes après 2 ou 3 jours, vous ne risquez rien.
Merci beaucoup Virginie. Tous les chocolats donc on trouvera en rayon à partir de demain, eux,
selon Ferrero, seront totalement sains car les lots ont été testés.
Merci beaucoup.
En Ukraine, comme elle l'avait annoncé, l'armée russe semble désormais concentrer son offensive sur l'est du pays.
La ville de Kramatorsk a ainsi été bombardée à plusieurs reprises cette nuit sur le front diplomatique. Une image marquante sans doute cet après-midi, l'adresse du président Zelensky au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Europe, elle, s'apprête à prendre de nouvelles sanctions contre Moscou. Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne, l'a confirmé ce matin sur RTL.
Va prendre des mesures pour limiter les importations des gaz, du pétrole et des charbons russes. Chaque pays peut prendre des mesures pour interdire les importations des gaz russes. Il y a les pays baltes qui l'ont déjà fait. L'important, c'est avoir un consensus le plus large possible. Il s'est fait petit à petit. Il y a des gens qui disent qu'il faut finir cette guerre le plus tôt possible, sans doute, mais pas n'importe comment. Soyons clairs. Il faut augmenter notre aide militaire en Ukraine, il faut augmenter la pression économique sur la Russie. C'est ça la recette.
Josep Borrell, l'invité d'Yves Calvi sur RTL ce matin. Dans le même temps, plusieurs pays annoncent l'expulsion de diplomates russes. 35 pour la France, 30 pour l'Italie, 15 pour le Danemark. L'ambassadeur de Russie en France a d'ailleurs été convoqué ce matin au Quai d'Orsay, reçu par le directeur politique. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
Ça sert vraiment à quelque chose d'expulser des diplomates?
Eh bien disons que c'est une sanction de plus, hein, une mesure de rétorsion supplémentaire face aux exactions commises par l'armée russe en Ukraine. Cette action conjointe de plusieurs pays européens va forcer près de 200 diplomates russes à faire leurs valises. Officiellement, le ministère des Affaires étrangères français évoque des activités contraires aux intérêts de sécurité de la France. En clair, on parle d'espionnage pour justifier l'expulsion de cette trentaine de diplomates russes. Par ce geste, l'Europe veut faire encore plus pression sur la Russie, mais la conséquence la plus directe, ça va être de réduire encore davantage les relations diplomatiques entre l'Europe et Moscou, mais elles sont déjà très mauvaises et il faut d'ailleurs s'attendre à une réponse parfaitement symétrique de la Russie dans les prochains jours. Autant de diplomates européens seront expulsés de Moscou. C'est d'ailleurs ce qu'a annoncé ce matin Dmitri Medvedev dans un message sur son compte Instagram. L'ex-président russe a ajouté d'ailleurs cette phrase assez cash: autant fermer les ambassades, ça coûtera moins cher et on finira par se regarder uniquement à travers le viseur des armes.
Explication décryptage signée Sophie Jousselin pour RTL.
Et à 5 jours du premier tour de la présidentielle, ce conflit continue de peser sur la campagne.
Ces dernières heures, la plupart des candidats ont été interrogés sur le massacre de Boutcha. Et clairement, on a senti un certain embarras chez au moins deux d'entre eux, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Marie Mollet.
Oui, les deux candidats condamnent sans réserve les images du charnier de Boutcha. Mais l'un comme l'autre se gardent bien de faire porter clairement la responsabilité sur l'armée russe. Ce n'est pas à nous de décider qui est coupable, a dit Marine Le Pen ce matin chez nos confrères de France Inter. La candidate du RN réclame une enquête de l'ONU pour déterminer qui seraient les auteurs de ces crimes de guerre. Une prudence que son entourage justifie. Elle se comporte en chef d'État. Elle ne fait pas de déclaration à l'emporte-pièce sur un sujet aussi sensible. Un peu plus tôt ce matin, Éric Zemmour s'est montré, lui, très frileux à condamner Moscou. Il était invité sur le plateau de France 2. Écoutez.
Il faut être prudent. Il faut être sûr que ces massacres, évidemment, soient le fait des troupes russes. Il faut une enquête internationale. On se souvient de Timișoara, on se souvient de la guerre en Irak. Il y a eu beaucoup de manipulations comme ça d'images. Je dis, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Je dis simplement, méfions-nous des images.
Méfions-nous des images, dit-il, un propos ambigu, pas une franche condamnation. Une méfiance qui résonne avec ses positions pro-Poutine il y a quelques semaines déjà, positions qui lui ont déjà coûté la fin de sa percée fulgurante dans les sondages.
Marie Mollet du service politique de RTL. Dans cette campagne, le pouvoir d'achat, vous le savez, est la première préoccupation des Français. Et la flambée des prix des carburants risque bien de chambouler nos vacances. C'est le résultat d'une enquête réalisée par les Villages Vacances VVF. Un Français sur deux a l'intention de modifier ses projets, Eric Vanier.
Oui, les personnes interrogées par VVF avaient des projets de vacances pour ce printemps ou pour cet été. Eh bien, 52% d'entre elles envisagent de modifier leur plan à cause des dépenses de carburant qui s'envolent. 39% de ces futurs vacanciers déboussolés par les prix à la pompe ont l'intention de partir moins loin. 7% d'utiliser un moyen de transport moins onéreux, train, car ou encore covoiturage. 6% vont repousser leur départ en espérant d'ici là une accalmie dans les stations-service. Et 2% ont prévu carrément d'annuler leurs vacances. Du coup, la destination France sera encore très prisée cette année. Entre le climat de guerre, le Covid qui plane toujours au-dessus de nous et donc le coup de bambou en faisant le plein, 75% des personnes sondées ont indiqué qu'elles comptaient rester dans l'Hexagone pour leurs prochaines vacances.
Éric Vanier du service économie de RTL. L'Élysée annonce avoir appelé les parents de Jérémy Cohen, ce jeune homme de confession juive percuté par un tramway mi-février après avoir été roué de coups par plusieurs personnes. Le parquet de Bobigny a ouvert une information judiciaire. C'était le 29 mars, il y a tout juste une semaine. Où en est l'enquête, Guillaume Chiez?
Eh bien, pour le moment, aucun agresseur n'a été identifié. On ne connaît donc pas leur motivation et personne n'est encore en mesure d'expliquer ce que Jérémy Cohen faisait à ce moment-là devant ce hall d'immeuble. Ce qui est certain, c'est qu'il a été victime de violence de la part d'une quinzaine de personnes juste avant son décès. Une vidéo prise de loin a été diffusée la semaine dernière. On voit le jeune homme se faire rouer de coups, traverser la route pour fuir et se retrouver sur les rails du tramway qui viendra le percuter quasi instantanément. Quant au motif de l'agression, pour le moment, la justice n'a pas retenu de caractère antisémite. La famille affirme qu'une kippa a été retrouvée sur place, mais pour l'heure, il est impossible de déterminer si le jeune homme l'a portée ou non au moment de son agression. Tout cela peut changer, évidemment, au cours de l'instruction et l'interpellation des agresseurs pourrait permettre de définir si Jérémy Cohen a été violenté pour un motif lié ou non à sa religion.
Guillaume Chiez du service police-justice de RTL.
Jean Castex, lui, est attendu cet après-midi dans le Tarn-et-Garonne.
C'est dans ce département que les arboriculteurs ont été sévèrement touchés par le gel de ces derniers jours. L'un des départements, en tout cas, les plus touchés. Françoise Roch est la présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits.
On a rajouté, disons, une nuit de gel à deux nuits de gel. Donc, c'est toujours un peu plus de dégâts sur les dégâts précédents. Donc on a eu moins 4 en plaine et moins 1 en coteau.
Vous serez cet après-midi aux côtés du Premier ministre sur une exploitation chez quelqu'un qui a été durement touché. Qu'est-ce que vous attendez de la venue du Premier ministre ?
Et déjà que le Premier ministre voie, puisque c'est tout le département du Tarn-et-Garonne qui est touché, je voulais absolument aller chez Jérôme parce que c'est quelqu'un qui s'est battu pendant 3 nuits contre le gel. Mais malgré ça, les parcelles les plus hautes qui ne gèlent jamais sont gelées. Donc c'est bien ça que l'on veut montrer au Premier ministre et au ministre de l'Agriculture et lui dire que nous voulons que les calamités soient à la même hauteur que celles de l'an dernier, au moins essayer d'avoir un tout petit peu de résilience pour tenir cette année blanche que l'on est en train de vivre.
La présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits au micro RTL de Patrick Hisson. Peggy, on est bien d'accord, ça y est, nos agriculteurs peuvent dormir tranquille, le gel c'est terminé?
Oui, c'est fini. Alors pratiquement pas de gelée demain, je dis pratiquement pas parce qu'il y aura encore un 0 degré à Aurillac par exemple, mais il en a fait moins 5 cette nuit, 1 degré à Tarbes, mais globalement dans le sud, ça va remonter demain, il fera 4 à Marseille, 6 à Nîmes, ainsi qu'à Bordeaux, 7 à Toulouse. La nuit dernière, à Toulouse, c'est descendu à moins 1 degré 4 et on a même relevé des records la nuit dernière, des records de froid à Luchon par exemple, en Haute-Garonne, avec moins 3 degrés 9, le record précédent étant en 1998 avec moins 3 degrés 4. Mais demain, on n'en parle plus, la douceur gagnera l'ensemble du pays et les températures vont remonter à nouveau jeudi. On n'aura plus de gelée du tout, on sera entre 6 et 10 degrés dans le sud le matin.
Merci beaucoup Peggy.
La sécurité alimentaire dans un instant. Buitoni hier, Kinder aujourd'hui, notre alimentation est-elle plus sûre? À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. 50 centimes. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
L'Institut Pasteur n'a jamais vu une telle épidémie de la sorte. C'est l'affaire des pizzas Buitoni.
On a déjà ramassé des croûtes de pizza de 3 semaines collées sur la ligne. Donc on grattait, parce que c'était sale. Même pour les chats ou les chiens, on fait mieux.
La mauvaise surprise pour Kinder à 2 semaines de Pâques.
Oui, le groupe Ferrero va enlever des rayons français plusieurs centaines de tonnes de chocolat Kinder. Donc, principe de précaution oblige.
Buitoni est donc désormais Kinder. Deux affaires de bactéries dans nos assiettes en moins d'une semaine. Et une question, faut-il s'inquiéter? Notre alimentation est-elle vraiment sûre? Qui contrôle quoi? C'est le premier débat de RTL Midi. On vous retrouve, Virginie Garin. Il faut d'abord préciser qu'on est face à deux cas, deux affaires assez différentes.
Voilà, Kinder, c'est une alerte européenne. Donc les Anglais découvrent des cas de salmonellose. Ils font le lien en interrogeant les victimes avec les chocolats Kinder. Le fabricant Ferrero remonte à son usine belge. Il prévient les 5 pays qui ont été livrés, dont la France, et ils décident, notamment en France, de retirer pratiquement tous ces produits des rayons. Alors, avec la pizza Buitoni, là, ce sont des cas de contamination par une autre bactérie, Escherichia coli, découvert en France. Le centre de surveillance de l'Institut Pasteur, et ça, c'est plutôt rassurant parce qu'on voit que ça marche, qui en permanence analyse des prélèvements qui remontent des hôpitaux, eh bien, Pasteur constate un nombre anormal de cas graves. L'enquête montre rapidement le lien avec une pizza surgelée fabriquée dans le Nord. Et pareil, le fabricant rappelle les produits. Dans les deux cas, une enquête et des analyses sont en cours pour savoir d'où viennent les bactéries et qui est responsable.
Et on est dans deux cas de gestion de crise aussi différents.
Exactement. Alors Buitoni, donc le Suisse Nestlé, préfère pour l'instant ne pas communiquer oralement et attend d'avoir les premiers résultats de son enquête interne, donc plutôt position d'attente. Ferrero, pour les chocolats, a communiqué tout de suite. Il a retiré des centaines de kilos de chocolat, même des lots sans risque. Alors s'il n'y avait pas, juste avant, s'il n'y avait pas eu l'affaire de la pizza, eh bien, elle serait sans doute passée pratiquement inaperçue, cette histoire de Kinder. En fait, Ferrero a décidé de retirer tous les lots, même ceux qui ne sont pas contaminés. C'est un petit peu psychologique. C'est une affaire très sensible en ce moment. À 15 jours de Pâques, il n'a pas voulu se permettre ce scandale.
On est d'accord que ces produits qui sont avariés, ils le sont à l'usine. C'est pas pendant le transport.
Exactement.
Donc ça pose le problème du contrôle des usines. Qui les contrôle?
Alors, en France et en Europe, c'est le même principe. Donc la responsabilité, elle pèse sur les entreprises. Ce sont eux qui font les contrôles. Les États font des cahiers des charges, définissent des règles d'hygiène et ensuite les entreprises font des milliers d'analyses chaque année. Et ensuite, si elles voient une anomalie, évidemment, elles sont obligées de le dire aux autorités sanitaires et de rappeler leurs produits. Il peut y avoir aussi des contrôles inopinés des services de l'État. Malheureusement, ils sont extrêmement rares et de plus en plus rares puisqu'il y a de moins en moins d'inspecteurs. Donc là, on a vu que pour l'affaire de la pizza Buitoni, il n'y avait eu que 2 contrôles dans l'année.
On est donc face à deux cas en moins d'une semaine. Est-ce que ça veut dire, Virginie, c'est peut-être ce que se disent nos auditeurs en entendant ça, est-ce qu'il y a plus de cas que par le passé?
Alors, il y a pratiquement tous les jours des rappels de produits. Je suis allée voir tout à l'heure sur le site de la DGCCRF, la Direction des Fraudes. Par exemple, aujourd'hui, il y a aussi du brie et du coulommier au lait cru, contaminé à la listeria. Le 1er avril, on avait du saumon fumé, des crèmes glacées. Tout est en ligne, hein. C'est intéressant à aller voir. Alors, il y a eu en un an 4300 produits rappelés, honnêtement. Kinder, sans la pizza Buitoni, je le rappelle, on n'en aurait pas beaucoup parlé. Alors évidemment, quand ça concerne des marques très connues ou que c'est de l'ampleur de la pizza, hein, 75 malades dont 2 décès, là, ça devient une affaire grave.
Mais on meurt moins avec ce qu'on mange qu'il y a 20 ou 30 ans?
Ah oui, on meurt beaucoup moins, puisque dans les années 50, il y avait 15 000 morts par an d'intoxication alimentaire. Aujourd'hui, on en a 250 en moyenne. Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? On a tous un réfrigérateur, un congélateur. Les normes d'hygiène sont devenues extrêmement strictes. Il y a les risques d'autrefois qui ont pratiquement disparu. Puis il y a les nouveaux risques parce qu'aujourd'hui, notre alimentation, elle est composée d'OGM, elle est composée de nanoparticules, elle est composée de beaucoup de pesticides, de produits chimiques. Et ces nouveaux risques-là, il y a des médecins qui font un lien peut-être avec l'augmentation des cancers. Donc c'est ces produits-là dont il faut vraiment évaluer les risques. Là, il faut de la recherche. Et même problème que pour les contrôles, malheureusement, les budgets de la recherche sont en baisse.
Et puis c'est à long terme, manifestement, pour un cancer.
Après, ça peut être sur une dizaine d'années, etc. Alors que là, malheureusement, une listeria ou une Escherichia coli, on peut en mourir en quelques jours.
Merci beaucoup, Virginie Garin. Merci de ces précisions. Dans une seconde, un jour, une proposition. Le grand âge, à tout de suite.
RTL. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud. Présidentielle 2022.
J-5.
À 5 jours du premier tour, RTL Midi continue de passer au crible les programmes des candidats. Un jour, une proposition. Et alors que 80 nouvelles plaintes ont été déposées hier contre Orpea, on s'intéresse donc au grand âge. Aujourd'hui en France, 1 400 000 personnes ont plus de 85 ans. Elles seront 4 fois plus nombreuses dans moins de 40 ans, 5 millions en 2060. Le sujet nous concerne tous, hein. On va tous vieillir.
A priori,
Pascal,
on sera dans cette catégorie dans 40 ans.
Et on a tous des parents. Oui, moi aussi, non, pas si longtemps que ça. On a tous aussi des parents, des grands-parents qui risquent de perdre en autonomie. Alors, qui propose quoi? C'est vous, Odile Pouget, qui vous êtes plongée dans les programmes. Bonjour.
Bonjour.
Première piste, maintenir les personnes âgées à domicile le plus longtemps possible. Et ça, on en rêve tous.
Alors oui, les candidats, en plus, sont tous d'accord là-dessus. Il faut aider les Français à vieillir chez eux. Ça passe par des mesures assez concrètes. Il y a par exemple cette prime baptisée Ma Prime Adapte, sur le modèle de Ma Prime Rénove pour la rénovation thermique. C'est une promesse d'Emmanuel Macron, prime d'un montant de 4 000 et 6 500 euros pour adapter le logement des seniors les plus modestes. 500 000 foyers pourraient être concernés sur 10 ans. Autre mesure, prenez cette fois par l'écologiste Yannick Jadot, des habitations partagées, des colocations par exemple entre étudiants et seniors. Du côté de Valérie Pécresse, la candidate de LR, on insiste plutôt sur une réduction des taxes sur les salariés à domicile. C'est très important pour les personnes âgées, des salariés à domicile. Pour cela, le crédit d'impôt des services à la personne sera doublé. Et puis, pour parvenir à ce maintien à domicile, eh bien, la socialiste Anne Hidalgo propose la création d'un grand service public d'accompagnement de la perte d'autonomie.
Il faut plus d'encadrement. Vous savez, il y a des pays comme l'Allemagne où on a 8 personnes.
Alors, ça, c'était Anne Hidalgo qu'on entend à l'instant. Ça concerne les EHPAD,
oui, ça concerne les EHPAD d'une manière générale. Pour les EHPAD, tous les candidats qui se prononcent sur le sujet rivalisent de promesses pour augmenter d'abord le nombre de places dans les maisons de retraite. Plus 100 000 d'ici 2030 pour Marine Le Pen. Plus 300 000 sur 3 ans pour le communiste Fabien Roussel. Plus 400 000, qui dit mieux, pour Éric Zemmour. Avec l'installation de structures, par exemple, liées à la petite enfance près des maisons de retraite pour favoriser les relations entre générations. Beaucoup de candidats, hormis Jean Lassalle, qui n'évoque même pas les EHPAD dans son programme, proposent de créer des emplois et revaloriser les salaires. C'est ainsi que Nathalie Arthaud, pour Lutte ouvrière, met sur la table 300 à 500 euros de plus par mois pour tous les personnels. Plus d'argent et donc plus de bras pour Anne Hidalgo. Il faut plus d'encadrement. Vous savez, il y a des pays comme l'Allemagne où on a 8 personnes pour 10 patients. En France, on est très très loin du compte. De son côté, Marine Le Pen souhaite augmenter le nombre de médecins en EHPAD avec l'obligation d'un médecin coordonnateur pour chaque maison de retraite et la présence d'une infirmière 24 heures sur 24. Le sujet central, évidemment, après le scandale révélé par le livre des Fossoyeurs, c'est la gestion des EHPAD que nombre de candidats voudraient confier à des structures non lucratives. C'est en tout cas le souhait de Fabien Roussel, le candidat communiste.
On n'a pas de profit à se faire sur le dos de nos grands-pères, nos parents, enfin quand même. Quand il y a un privé qui se comporte comme ça, on doit pouvoir prendre l'établissement et le mettre tout de suite sous direction publique. Un marchand de sommeil qui héberge des familles dans des conditions déplorables, on récupère l'appartement, on loge la famille, on doit faire pareil avec ces personnes âgées, on doit les protéger. Ils se font du beurre sur le dos de nos aînés et ça ne choque personne. Mais il faut sortir nos aînés des marchés et de la finance.
Quant à Éric Zemmour, il prévoit le renforcement des contrôles des EHPAD avec une mesure phare, la suppression des agences régionales de santé qui, selon lui, ne remplissent pas leur rôle. Et puis une alternative aux EHPAD, c'est les résidences autonomie et les résidences services seniors. Là, Nicolas Dupont-Aignan annonce dans son programme la création de 110 000 places dans les premières et 50 000 dans les secondes.
Un certain nombre de candidats proposent également des mesures pour les aidants.
Ouais, c'est vrai que depuis peu, les aidants familiaux qui travaillent peuvent prendre un congé indemnisés pendant 3 mois ou 1 an sur l'ensemble de leur carrière. Alors, beaucoup de propositions pour soutenir ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie pour accompagner leurs proches. Ils sont quand même 11 millions d'aidants en France. Fabien Roussel souhaite augmenter l'indemnité et la durée de congé. Valérie Pécresse veut mettre en place un véritable statut et propose que chaque salarié puisse demander un aménagement de son temps ou de son lieu de travail pour s'occuper d'un proche. Yannick Jadot veut développer les droits à leur formation, au répit et à leur retraite.
Et la fin de vie, Odile, ça aussi, c'est un vrai sujet.
Oui, Anne Hidalgo prône un respect absolu de la volonté du patient en fin de vie. Elle propose que chacun ait le droit d'accéder à une aide active à mourir. Jean-Luc Mélenchon veut rajouter le droit à mourir dans la dignité, y compris avec assistance, dans la Constitution. Et puis Yannick Jadot, lui, veut doubler le nombre de lits spécialisés en soins palliatifs. Il y en a seulement 7500 aujourd'hui. Il veut aussi créer des maisons de soins palliatifs.
1 500 000 personnes sont donc concernées, c'est le chiffre qu'on retiendra. On pensait d'ailleurs avec Amandine qu'il y avait plus de personnes qui ont plus de 85 ans en France. 1 500 000 et le chiffre à retenir également, c'est que dans 40 ans, eh bien, il y aura 5 millions de gens. Donc c'est un sujet qui sera au cœur de la préoccupation de notre société. Vous pourrez réagir bien sûr durant les auditeurs à ces solutions, à ces programmes et qu'est-ce que vous souhaitez pour le grand âge.
Il est 12h57.
Merci Odile. À tout de suite.